Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulal Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du droit public, un domaine qui façonne notre vie collective au quotidien, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Nous parlerons du droit de la fonction publique qui encadre les droits et devoirs des agents de l'État et des collectivités. Nous aborderons également le droit de l'urbanisme qui organise l'aménagement de nos villes et de nos territoires. Et enfin, nous nous intéresserons au droit des étrangers, à la croisée des questions humaines et juridiques, autant de thématiques essentielles pour comprendre comment s'articulent nos droits, nos libertés et l'action publique. Mes invités du jour sont tous avocats en droit public et je les remercie vivement d'être venus partager cette matinée avec nous. Bonjour Maître Julien Lalanne.
Bonjour Sonia, merci de votre accueil.
Merci à vous d'avoir accepté mon invitation pour ce premier numéro de l'émission Tous les droits de la saison 2025-2026. Vous êtes avocat au barreau du Val d'Oise. Vous avez créé en 2015 le cabinet Verpon, implanté à Pontoise et à Versailles. Votre cabinet intervient en droit public, urbanisme, domaine, fonction publique, contrat public. Vous êtes également membre du Conseil de l'Ordre. Et vous nous raconterez votre parcours, la création de ce beau cabinet, et puis vos fonctions ordinales. À vos côtés, Maître Jonathan Thomas.
Bonjour Sonia, merci de me recevoir.
Merci à vous. En plus, vous êtes un voisin.
Exactement, tout à fait.
Votre cabinet est situé à Enghien-les-Bains. Vous l'avez créé en 2018 et vous exercez en droit des étrangers, droit de la famille et des personnes et en droit pénal. Enfin, merci à Raphaël Cabral.
Bonjour Sonia.
De participer à cette nouvelle émission. Vous êtes avocat au barreau du Val d'Oise. Vous avez créé votre cabinet en 2021. Il est situé à Pontoise. Vous exercez en droit du travail et droit de la fonction publique principalement et vous êtes également chargé d'enseignement à l'université de Cergy. Bienvenue et merci d'être tous les trois mes invités sur IDFM Radio, une émission à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Et tout de suite, je me tourne vers Maître Julien Lalanne. Mon cher confrère, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre parcours? Comment vous êtes devenu avocat? Quand est-ce que vous avez prêté serment? Et nous parler de votre domaine d'expertise.
Très bien Sonia, merci de votre invitation. Vous parlez de mon parcours, c'est peut-être vous dire que... Alors, je suis avocat depuis 2013, j'exerce à Pontoise et j'ai fait le choix d'une activité qui soit d'abord orientée puis désormais spécialisée en droit public et plus spécialement en droit de l'urbanisme. Avant cela, j'ai un parcours universitaire assez classique. J'ai fait le début de mes études à l'université de Cergy-Pontoise, puis dans des facultés parisiennes. J'ai ensuite rejoint l'école du barreau à Paris et j'ai fait l'Institut de droit public des affaires, donc vraiment une formation universitaire classique orientée vers le droit public, le droit administratif. Et c'est donc à ces matières que je consacre toute mon activité désormais. Je vous le disais, en droit de l'urbanisme, et vous avez expliqué ce qu'est le droit de l'urbanisme, c'est ce droit qui vise à régir l'aménagement de nos villes, l'aménagement du territoire, avec derrière un certain nombre d'enjeux d'organisation de nos sociétés.
Et donc, vous avez été collaborateur et après, vous avez créé votre cabinet, c'est ça?
C'est ça. J'ai eu le plaisir d'être collaborateur dans un cabinet parisien qui était lui-même spécialisé, enfin, l'associé était spécialisé en droit administratif, en droit public. Et à partir de 2015, je me suis associé avec des confrères avec lesquels j'étais auparavant collaborateur. Et nous avons monté un cabinet qui s'appelle Verpon Avocat et qui vise à intervenir dans tous les champs du droit public. J'ai des associés qui interviennent en droit de la fonction publique, en droit des contrats publics, en droit des étrangers. Et j'interviens pour ma part dans ce qu'on va appeler l'immobilier public. Donc principalement, je vous le disais, le droit de l'urbanisme, mais aussi le droit du domaine public principalement.
Et vous avez une mention de spécialisation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette mention de spécialisation? Parce que je le rappelle à chaque émission, tous les avocats ne sont pas spécialisés dans un domaine. Vous pouvez nous expliquer un petit peu?
C'est effectivement, d'aucuns diraient une de mes marottes, mais je vous explique pourquoi. Puisqu'effectivement, au bout d'un certain nombre d'années d'exercice, un avocat peut, en sollicitant le Conseil national des barreaux, qui est notre organe représentatif à l'échelon national, peut solliciter de ses pairs, donc à la fois de ses confrères, d'universitaires et de magistrats, l'obtention d'un certificat de spécialisation qui lui permet de sanctionner une activité dans une matière particulière et ce qu'il veut pouvoir présenter auprès de sa clientèle comme étant une compétence spécifique. Effectivement, j'ai, à la période du Covid, fait le choix de me consacrer à cette mention de spécialisation et j'ai obtenu en 2020 cette mention de spécialisation dont l'intitulé est le droit public, ce qui est vaste. Et à l'intérieur de la mention de spécialisation, vous pouvez vous faire reconnaître ce qu'on appelle une qualification spécifique et le Conseil national des barreaux m'a accordé la qualification spécifique en droit de l'urbanisme.
Très bien. Donc, quand on se rend sur l'annuaire des avocats du barreau du Val d'Oise et qu'on tape spécialisation urbanisme, eh bien, vous êtes d'ailleurs, je crois, le seul avocat spécialisé en droit de l'urbanisme sur le barreau d'ailleurs.
J'ai
fait la recherche.
On n'est effectivement pas très nombreux à faire du droit d'urbanisme.
Je le précise à l'attention de nos auditeurs, quand on vous recherche un avocat, vous pouvez vous rendre sur le site du barreau du Val d'Oise. Il y a un annuaire et avec cet annuaire, vous pouvez chercher un avocat, soit en fonction du lieu de son cabinet, soit en fonction de son activité dominante et même de sa spécialisation. Voilà. Et donc vous êtes parmi ces spécialistes. Alors, je vous demande ça parce que souvent, quand on est en cours d'études, les étudiants n'apprécient pas spécialement le droit public. Le droit administratif, c'est une matière qui est un peu boudée. Mais vous en avez fait votre métier. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette matière particulière?
Oui, c'est une matière qui peut sembler un petit peu aride parce que le principe du droit administratif, enfin, du droit public de manière générale, c'est d'être à laisser un pas de côté par rapport au droit privé dont on a l'habitude qu'il régisse nos relations dans le monde du travail, dans la famille, etc. Mais c'est ce qui fait cette richesse. C'est un droit qui est irrigué par des fondamentaux comme le service public, les libertés fondamentales. Et c'est dans ce... Enfin, je pense qu'il y a une vraie richesse de la matière. Il faut aussi dire que quand on dit droit public, c'est finalement très vaste, puisque, et mes confrères en témoigneront, il y a énormément de choses dans le droit public. Mais une fois encore, avec l'idée générale que ça recouvre tous les champs de la vie courante et de nos sociétés. Je pense qu'on le verra au cours de cette émission. C'est ça la richesse du droit administratif.
Et pour que les auditeurs aussi comprennent un peu l'organisation de notre justice en France, donc vous intervenez devant le juge administratif, qui n'est pas le juge judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principes de cette distinction?
Alors, cette distinction qui est effectivement fondamentale repose sur... Vous savez, les juristes aiment bien tout diviser en deux. Et donc, vous avez effectivement une division avec, d'un côté, des juridictions judiciaires, qui sont donc les tribunaux, alors civils, pour le dire de manière synthétique, et les juridictions pénales, donc d'un côté. Et de l'autre côté, les juridictions administratives, qui sont composées des tribunaux administratifs, des cours administratifs d'appel et du Conseil d'État, qui est la juridiction administrative suprême. Et ce sont ces juridictions qui ont vocation à connaître des litiges avec l'administration, éventuellement entre administrations, mais donc c'est tout un ordre de juridiction particulier qui a vocation à appliquer le droit public, pour le dire ainsi.
Donc, et les magistrats de l'ordre administratif donc, n'ont pas la même formation que les magistrats judiciaires?
Exactement, ils ne sortent pas de l'École nationale de la magistrature, ils peuvent avoir fait ce qui était auparavant l'ENA, ce qui est désormais l'INSP, ou ils peuvent venir d'autres corps de l'État, mais ils appartiennent au corps, pour ce qui est des tribunaux et des cours administratifs, donc au corps des conseillers des tribunaux et des cours administratifs d'appel, et ils ont effectivement, ils sont amenés à juger uniquement les litiges en matière administrative.
Et donc, des règles spécifiques qui s'appliquent devant ces juridictions avec un code de justice administrative?
Des règles contentieuses qui sont différentes des règles de procédure civile ou des règles de procédure pénale. Des règles qui sont parfois perçues comme étant contraignantes. Certains y voient des pièges, des choses trappes. Nous le verrons peut-être dans la réponse aux questions de vos auditeurs, mais effectivement des problématiques de délai sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant et qui appellent une certaine habitude de ces matières C'est le sens des interventions autour de la table.
C'est ça, et c'est le sens de cette émission de rappeler aux auditeurs que s'ils veulent s'adresser à un avocat, toujours bien se renseigner sur la matière qu'ils pratiquent et s'adresser à des avocats publicistes lorsqu'on a des litiges qui relèvent de la juridiction administrative. Vous êtes aussi enseignant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre casquette enseignant à l'université?
Alors c'est une casquette modeste. L'agenda de l'avocat étant ce qu'il est, il est parfois difficile de trouver un temps suffisant et surtout avec une récurrence et une fréquence. Donc il faut savoir raison garder. Néanmoins, j'ai le plaisir d'intervenir. Alors d'abord à l'EDAC. L'EDAC c'est l'école des avocats des barreaux de la cour d'appel de Versailles. Où j'interviens auprès donc des élèves avocats, donc des étudiants qui ont obtenu qui vont devenir avocats, mais qui sont encore en cours de formation. Je vais intervenir à compter du mois de septembre à l'université de Cergy-Pontoise sur des problématiques, vous l'imaginez bien, qui sont liées à ma pratique professionnelle d'urbanisme et principalement à destination d'agents de la fonction publique.
Et vous avez un emploi du temps effectivement extrêmement chargé, puisqu'en plus, vous avez des fonctions au sein de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots de ces fonctions ordinales?
Alors, les fonctions ordinales consistent, je ne sais pas s'il faut le rappeler, mais faisons-le rapidement. Donc, un avocat peut choisir de se présenter aux élections ordinales et donc de solliciter de ses confrères la possibilité de devenir membre du Conseil de l'ordre. C'est le cas en ce qui me concerne, puisque mes confrères, peut-être autour de la table, m'ont fait l'honneur de m'élire comme membre du Conseil de l'Ordre, et je suis à la fin de mon second mandat, et je dis bien second puisque nous ne pouvons pas en faire un troisième. Donc j'ai fait un premier mandat de 2021 à 2023 et ensuite de 2023 jusqu'à la fin de l'année 2025. Je suis en charge des relations avec le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la cour administrative d'appel de Versailles. J'ai eu le plaisir d'être trésorier de l'Ordre pendant 2 ans. Mission qui est désormais prise en charge par un autre de nos excellents confrères, et je le remercie pour son investissement pour les finances de l'ordre. Et quant à moi, je suis désormais en charge de la formation. C'est un secteur essentiel pour les avocats, puisque les avocats ont une obligation de formation continue, et il nous appartient d'organiser un certain nombre de manifestations de formation à destination des confrères. Au-delà de ça, être membre du Conseil de l'Ordre, c'est toutes les 3 semaines, participer au Conseil de l'Ordre, qui a vocation donc à connaître des grandes questions de la profession, à prendre des positions qui intéressent la profession de manière générale, mais aussi à régler des questions plus locales dans les relations avec les juridictions, dans tout ce qui relève de l'organisation administrative de l'exercice des confrères. Ce sont des fonctions passionnantes, et je remercie la bâtonnière en titre, Annelise Vistup-Gilbert, pour la confiance qu'elle a pu avoir à mon égard.
Merci pour votre investissement, Maître Julien Lalanne. Merci pour cette présentation. Et ça a permis aussi de rappeler un certain nombre de choses. Donc, les avocats du barreau du Val d'Oise sont organisés en ordre avec des obligations de formation, des avocats qui exercent chacun dans leur domaine d'intervention respectif avec des activités dominantes et pour certains des spécialisations. On marque une courte pause musicale et nous nous retrouvons pour poursuivre les interviews de mes invités du jour.
J'aimerais être cette fille qui manie avec perfection cette frontière infime entre confiance et prétention. Je veux dire que je brille sans provoquer de confusion, pouvoir être libre de m'aimer et à raison. Tu sais, c'est chez les autres qu'on cherche ce qu'on n'a pas. Tu sais, c'est pas ma faute si je m'aime pas autant que toi. Moi je les envie toutes, ces filles qui s'aiment, qui ne pensent que par elles-mêmes. Ces filles qui font mes rêves, qui vivent à la française. Promis demain je change de disque, je deviens cette fille qui prend des risques.
Moi j'envie ces filles qui font l'objet de ma passion. J'apprends même par cœur tous leurs sujets de discussion. Elles savent ce qu'elles disent, elles ont de l'imagination. J'aime comme elles s'habillent et ce quelle que soit la saison. Tu sais, c'est chez les autres qu'on cherche ce qu'on n'a pas. Tu sais, c'est pas ma faute si je m'aime pas autant que toi. Moi je les envie toutes, ces filles qui s'aiment, qui ne pensent que par elles-mêmes. Ces filles qui font mes rêves à la française. Promis demain je change de disque, je deviens cette fille qui prend des risques. Ces filles, elles sont si belles. Ces filles, quand elles jouent les rebelles. Ces filles, elles sont comme un modèle. Ces filles, elles me donnent des ailes. Moi je les envie toutes. Ces filles qui s'aiment, qui ne pensent que par elles-mêmes. Que je deviens cette fille qui prend des risques.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes bien dans Tous les droits, une émission ce matin consacrée au droit public avec mes côtés, maître Julien Lalanne, maître Raphaël Cabral et maître Jonathan Thomas. Nous poursuivons cette émission avec maître Raphaël Cabral. Mon cher confrère, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez eu l'idée de devenir avocat quand vous avez prêté serment et nous parler un peu de votre parcours et pareil de vos domaines d'expertise?
Bah même moi, je me pose encore un peu la question pour ne rien vous cacher. Pour être très sincère, je n'avais pas forcément de vocation particulière au début de mes études de devenir avocat. Bon, j'ai eu les années les unes après les autres. D'ailleurs, j'ai à cette occasion croisé notre confrère Julien Lalanne. On était ensemble à l'université de Cergy. Donc, en master 2, j'étais à Paris 1, j'ai fait des masters en droit public. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais après ça? Je veux pas être juge, je veux pas être prof, je veux pas être juriste. Donc je vais être avocat et ça va faire plaisir à mes parents. Donc
ah,
j'ai
oui.
tenté le concours je l'ai obtenu. Ensuite, j'ai fait l'école du barreau et j'étais avec mon master 2 spécialisé en droit public des affaires, c'est-à-dire les marchés publics. J'ai fait mon stage final dans un cabinet à Paris, cabinet d'affaires, et là je me suis dit, c'est pas du tout ce que je veux pour moi, parce que vous êtes avocat, mais vous ne mettez jamais la robe, vous n'allez jamais en audience, et vous ne voyez jamais un client. Donc je me suis dit, c'est pas tout à fait pour ça, même si j'avais pas forcément de vocation particulière au départ. Et après, lorsque je me suis installé en tant qu'avocat, j'ai décidé de repartir de zéro, et j'ai exercé dans un premier temps au sein de structures généraliste qui faisait du droit privé. Et c'était un domaine que je connaissais pas du tout, donc il a fallu partir de zéro et ça force un petit peu à l'humilité. Et après, au fur et à mesure, je me suis installé à mi-temps et ensuite à temps complet pour moi. Et j'ai développé une activité qui était en droit du travail et en fonction publique. Donc j'ai un petit peu cette vision comparatiste entre ce qui se passe devant les juridictions administratives, au tribunal administratif, et devant les juridictions prud'homales, pour les mêmes questions, c'est-à-dire des questions de travail.
Des questions de travail, mais avec des salariés d'un côté, avec
Exactement.
Le code du travail, et de l'autre, des fonctionnaires avec... vous nous ouais. parlerez de leur statut, parce qu'ils
Exactement.
Ont des statuts très particuliers. Et donc, vous avez créé votre cabinet quand vous ?
En 2021.
Voilà, c'est l'info que j'avais. Très bien. Et vous êtes installé à Pontoise.
Je suis installé à Pontoise.
Très bien. Et à côté, pareil, de vos fonctions d'avocat, vous exercez en qualité d'enseignant à l'université de Cergy également. En quelle matière ?
Moi, je fais les années d'introduction, c'est-à-dire première année, introduction au droit. J'ai encore souvenir de mon TD en introduction du droit. Je n'ai je n'aimais pas spécialement le chargé de TD, mais je lui reconnais qu'il m'a assez bien formé, c'est-à-dire que ce qu'il m'a expliqué il y a vraiment quelques années, je l'utilise encore aujourd'hui. Donc ça apprend la rigueur. Et il y a aussi quelque chose, bon, qui est plus anglo-saxon, mais qui tient aussi de redonner à ce qu'on appelle l'alma mater, c'est-à-dire l'université qui vous a un petit peu formé. Et donc, je reviens plusieurs années, mais je reviens où j'étais quelques années auparavant, mais de l'autre côté, quoi.
Et vous y étiez avec maître Julien Lalanne, oui, qui est assis à vos côtés.
Et oui,
et
qui était déjà très brillant à l'époque.
Ah, ça, ça n'a pas changé, ça.
Ça n'a pas changé, déjà. Une vraie constante.
Ah, c'est magnifique. Et là, vous êtes tous les deux au micro d'IDFM Radio pour nous parler de vos brillants parcours d'avocat.
Qui l'aurait dit ?
Et toi, ils doivent être contents, vos parents. Alors, ça y est, c'est
ça
bon.
C'est...
On disait à l'époque, je dis à l'époque, bon, c'est pas, il y a pas très longtemps. Ouais. Oui, dans les familles, fallait un avocat et un médecin. Des fois, c'est vrai qu'il y a certains confrères, c'est aussi les parents. C'était vrai que être avocat, c'était.
J'ai pas eu de pression familiale. J'ai toujours fait un peu ce que je voulais, mais je me disais, bon, qu'est-ce que je fais ? Et c'est vrai que, bon, il y a quand même encore un prestige de la robe et de la fonction.
Et c'est ça aussi qui peut être des fois encourageant dans les moments où...
Il y a une profession où on vous appelle par un vocatif, maître, c'est pas quand même...
C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, mon cher confrère. Et je me tourne vers maître Jonathan Thomas, le voisin d'IDFM, le voisin d'IDFM Radio. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours également?
Oui, merci en tout cas de me recevoir et de cette invitation. Alors moi, effectivement, je me suis tourné vers le droit après avoir obtenu le baccalauréat, un peu aussi par hasard. Moi, à la base, je me destinais plutôt à faire une école de commerce, et puis je me suis orienté vers le droit parce que la formation en droit était assez, comment dire, diverse, avec de la science politique, de l'histoire. J'avais envie d'apprendre, une soif d'apprendre. Donc j'ai poursuivi mes études en licence de droit à l'université d'Angers, puisque je suis angevin d'origine, et ensuite je suis parti à Paris, où j'ai poursuivi donc en master 1 en droit privé fondamental à la Sorbonne, et je me suis ensuite spécialisé un peu en droit privé fondamental et en droit des personnes. Donc moi, j'ai vraiment à la base une formation de civiliste. Master 2 donc que j'ai obtenu à l'université de Sceaux, et ensuite j'ai intégré l'EDAC, où effectivement enseigne mon confrère Lalanne, qui est donc l'école des avocats qui prépare à la fonction d'avocat, et j'ai prêté serment en septembre 2013. J'ai commencé par un travail de collaborateur dans un premier cabinet à Versailles, puis dans un autre cabinet à Cergy, où j'ai pu appréhender le droit des étrangers et de la nationalité, et c'était une matière qui m'a passionné, parce que en réalité on touche à l'humain, on touche au parcours des gens, et qui dit droit des étrangers dit parfois aussi, et bien évidemment, des problématiques familiales, des problématiques aussi parfois d'ordre pénal. Donc c'est assez pluridisciplinaire, et moi ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est d'aider les gens, les justiciables, dans leur parcours de vie, et donc évidemment cette dimension humaine m'a particulièrement plu. Après quelques années de collaboration, je me suis installé donc à mon compte, à Enghien-les-Bains, donc dans les locaux juste à côté de votre studio, et j'exerce donc en individuel avec un collaborateur et une assistante juridique que je salue, et qui effectivement m'aide au quotidien, et je reçois mes clients, et j'ai grand plaisir à plaider devant les juridictions d'Île-de-France et parfois un peu plus loin en province, pour effectivement assister mes clients.
Justement, vous avez raison d'en parler. Donc, vous intervenez sur tout le territoire français. La particularité, effectivement, de la matière administrative, c'est que on peut très bien choisir un avocat parisien pour aller plaider devant le tribunal administratif de Nantes, par exemple.
Alors, tout à fait. Effectivement, il faut savoir qu'en droit public, puisque effectivement, moi, sur le versant droit des étrangers, c'est une activité donc publique, et je plaide devant les tribunaux administratifs, comme mes confrères, et au cabinet, j'exerce également de manière un petit peu plus marginale le droit de la famille et également le droit pénal, où là on plaide devant les juridictions judiciaires, hein, de l'ordre judiciaire. Donc effectivement, ce sont les deux grandes artères du système judiciaire en France. Et il faut savoir qu'en matière administrative, il n'y a pas de limite territoriale, c'est-à-dire qu'effectivement on plaide absolument où on le souhaite, donc on peut très bien plaider en fait à l'autre bout de la France, dans le sud, dans le nord. Il n'y a pas de limite territoriale. Il y a certaines matières où effectivement il y a des limites, puisque comme l'a rappelé effectivement mon confrère tout à l'heure, on est organisé par barreaux. Il y a à peu près, si je résume un petit peu, un barreau par département, et ensuite on est dans des ressorts de cour d'appel, et puis ensuite effectivement parfois il y a des matières civiles avec représentation obligatoire où on doit avoir un avocat du barreau près de la cour d'appel, professionnelle. Et donc là, effectivement, c'est un petit peu plus lourd sur le plan procédural. Mais en matière administrative, il n'y a pas de ce qu'on appelle de postulation. Donc on peut intervenir absolument partout sur le territoire, comme en matière pénale, comme en matière de droit du travail.
Très bien, merci pour toutes ces précisions. Alors vous parlez de votre soif d'apprendre qui doit être satisfaite parce que on a cette obligation de formation continue et puis le droit des étrangers est une matière en constante évolution. L'actualité nous permet de dire qu'encore
exactement, beaucoup de textes... Exactement, bah, c'est vrai que c'est une matière en constante évolution et qui est parfois au cœur du débat politique. Voilà, donc évidemment, il faut parfois rappeler aussi la réalité de ce qu'est le droit des étrangers qui est régi par le CEDEDA, hein, qui est le code d'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire français, qui répond à des dispositions extrêmement précises. Moi, j'interviens à la fois sur la régularisation, c'est-à-dire sur les demandes de titre de séjour, dans le cadre soit de l'admission exceptionnelle, soit de l'admission au séjour au plein droit, parce qu'il y a effectivement des hypothèses d'admission au séjour de plein droit, c'est-à-dire effectivement des gens qui, de droit, peuvent obtenir effectivement un titre de séjour en France, et puis d'autres où c'est soumis à ce qu'on appelle l'appréciation souveraine du préfet, où là, effectivement, eh bien, c'est une appréciation plus discrétionnaire. Et puis, effectivement, j'interviens sur la partie contentieuse, et on en a beaucoup parlé dans les médias, c'est-à-dire les contestations de ces fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français, où, effectivement, là, on est dans le cadre d'un litige entre le justiciable, le ressortissant étranger, et l'État, et en l'occurrence le préfet, où là, effectivement, il y a un débat contradictoire écrit, puisque la procédure est écrite devant le tribunal administratif, où moi, j'introduis des recours, je communique des pièces, parfois des mémoires complémentaires, et nous plaidons effectivement les dossiers devant les tribunaux administratifs d'Île-de-France, mais également de France, évidemment. Et j'interviens aussi sur l'aspect du regroupement familial, puisqu'il y a également du contentieux sur l'aspect du regroupement familial, et puis aussi un peu plus de manière marginale en matière de naturalisation.
Très bien, merci pour ces précisions. Et c'est vrai que, je le rappelle, hein, nécessité d'avoir un avocat qui maîtrise parfaitement cette matière, parce qu'il y a des délais extrêmement courts parfois. Je pense à ces OQTF,
tout à fait.
Sans délai. Ou...
Vous avez raison de le rappeler, puisque les délais sont extrêmement importants en matière publique. Et en droit des étrangers, nous sommes évidemment contraints de respecter des délais. Très souvent, effectivement, une obligation de quitter le territoire se conteste dans le délai d'un mois ou de 30 jours à compter de la notification de cette décision à recommander. Et donc, évidemment, nous sommes contraints par ces délais qui permettent, en fait, tout simplement de valider la recevabilité d'une requête.
Okay. Je vous remercie pour toutes ces précisions. On aura l'occasion de revenir dans le cadre des questions auxquelles vous répondrez sur ces délais et ces spécificités de la matière du droit des étrangers. Je vous remercie tous les trois de vous être livrés sur vos parcours et d'avoir partagé avec nous vos actualités. On se retrouve juste après une pause musicale, cette fois, pour répondre à vos questions en droit public.
IDFM 98FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit public et nous allons maintenant répondre aux nombreuses questions des auditeurs. Maître Julien Lalanne, nous avons reçu des questions qui relèvent de votre spécialisation. Droit public, spécialisation, urbanisme.
Presque, Sonia.
Alors, c'était quoi que je devais dire ?
La spécialité, l'intitulé est très vaste, c'est droit public. Oui. Et ensuite, pour reprendre la nomenclature du Conseil national des barreaux, même si ça peut paraître un petit peu sec, la qualification spécifique, c'est le droit de l'urbanisme.
Très bien. Et c'est en cette qualité que vous allez donc répondre à cette première question. Mon voisin a construit une extension sans permis de construire. Que puis-je faire et quels sont les recours possibles ?
Merci Sonia pour cette première question. Alors effectivement, si vous êtes confronté à un voisin qui a construit une extension à sa maison d'habitation, on va considérer, sans avoir obtenu d'autorisation d'urbanisme, et que la mairie n'intervient pas d'elle-même, parce qu'il faut admettre que les collectivités sont quand même plutôt vigilantes sur ces sujets et font parfois le nécessaire d'elles-mêmes sans que vous, voisins, vous n'ayez rien à faire de particulier. Mais donc, à supposer que la commune ne fasse rien d'elle-même, vous allez, en synthèse, avoir deux voies de droit envisageables. La première va être, comme je le disais, de saisir le maire, ou à défaut d'action du maire, de saisir le préfet, en demandant au maire de dresser un procès-verbal d'infraction. Parce qu'effectivement, il faut savoir que le fait de construire sans l'autorisation administrative requise constitue une infraction pénale, un délit en l'occurrence. Je pense que c'est une notion que vous avez expliquée dans de précédentes émissions. Et donc, face à ce délit qui est vraisemblablement caractérisé, le maire est en principe tenu de dresser un procès-verbal d'infraction. Ce procès-verbal d'infraction, il va devoir l'envoyer au procureur de la République, qui pourra diligenter une enquête, et procureur de la République qui pourra ensuite renvoyer le voisin n'ayant pas obtenu son permis de construire devant le tribunal correctionnel. Tribunal correctionnel qui pourra prononcer une amende et qui pourra surtout, parce que c'est le cœur sur ces problématiques-là, qui pourra prononcer la remise en état. Et la remise en état, qu'est-ce que ça signifie ? Ça peut être soit une remise en état par une régularisation administrative, c'est-à-dire obtenir a posteriori le permis de construire qu'il aurait fallu obtenir a priori, ou à défaut de régularisation possible, ça peut aller jusqu'à une démolition, et une démolition sous astreinte, c'est-à-dire une pénalité financière qui s'appliquera après un certain délai. Il faut aussi savoir que si le maire refuse de dresser le procès-verbal que vous lui avez demandé de dresser, vous pouvez saisir le tribunal administratif afin qu'il apprécie l'existence d'une infraction et éventuellement qu'il contraigne le maire à dresser ce procès-verbal puis à engager la procédure que je viens de décrire. Voilà pour la première voie de droit qui est donc auprès de l'administration et ensuite auprès éventuellement du tribunal correctionnel et ou du tribunal administratif selon la configuration. La seconde voie de droit, c'est d'opter pour la voie civile, c'est-à-dire de prendre vous-même les devants, de prendre en charge vous-même l'action et de considérer que parce que votre voisin n'a pas obtenu l'autorisation d'urbanisme qui était requise, il engage sa responsabilité civile et en fonction des conséquences qu'aura cette situation pour vous, en fonction également de la capacité à régulariser ou non cette construction irrégulière, vous pourrez demander au tribunal judiciaire des dommages et intérêts, voire une remise en état. Vous le comprenez, l'intérêt de cette procédure civile, c'est que vous avez la main sur la procédure. Maintenant, son inconvénient, c'est qu'il faille précisément la prendre en main et donc en assumer le coût, en assumer les risques, puisque, on le rappelle, une procédure judiciaire est toujours soumise à un certain aléa.
Merci, c'est extrêmement clair et j'en profite, alors parce que je glisse toujours des messages dans ces questions. Vous parlez de la question du coût financier d'une procédure civile par exemple. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler que le dispositif des protections juridiques, parce que les clients des fois ne savent même pas qu'ils ont souscrit ces produits.
Chacun doit effectivement être vigilant à ce que dans l'un de ses produits d'assurance, l'assurance habitation de sa maison, mais même parfois avec des produits plus accessoires, sa carte bancaire, on peut être titulaire d'une ligne de protection juridique. Ligne de protection juridique qui aura vocation à couvrir un sinistre, qui est un sinistre juridique. Moi, je dis souvent à mes clients que le sinistre qu'ils vont devoir déclarer, c'est pas un dégât des eaux, mais c'est un procès que leur fait un voisin ou qu'ils sont contraints de faire à un voisin, à une administration, que sais-je encore. Et donc, il faut interroger votre assureur, votre banquier, votre courtier. Et le cas échéant, la protection juridique vous confirmera qu'elle couvre ce sinistre, elle vous adressera un barème. Il faut savoir que ce barème ne lie pas l'avocat qui pourra vous demander éventuellement des honoraires complémentaires, mais ça vous permettra de participer à la prise en charge des honoraires de votre avocat.
Merci pour ces précisions. Un deuxième auditeur nous a adressé une nouvelle question à votre attention. Il nous indique « Je suis propriétaire d'un bien immobilier et je souhaite créer une extension. Dois-je obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable? Quelles sont les principales étapes à respecter pour obtenir une autorisation d'urbanisme et combien de temps dure l'instruction d'une telle demande ?» C'est plein de questions en une question.
Oui, effectivement, un certain nombre de sous-questions dans la question, mais c'est tout l'intérêt de la matière et tout l'intérêt du droit, c'est que souvent on ouvre un tiroir et il y a un second, voire un deuxième et un troisième tiroir à l'intérieur. Alors peut-être que la première précision qu'il faut apporter à votre auditeur, c'est de déterminer ce qu'est une extension. Je le rappelle parce que derrière une notion qui en français peut paraître évidente, il y a en droit certaines subtilités. Et il y a d'autant plus de subtilités qu'il a été nécessaire pour le Conseil d'État récemment de rappeler ce qu'est une extension. Une extension, c'est un agrandissement d'une construction existante qui a un lien physique et fonctionnel avec cette construction existante, mais, et c'est important, qui a des dimensions inférieures à la construction existante. Donc si vous avez une maison de 100 mètres carrés, que vous en faites 50, 60, c'est une extension. Si vous prétendez en refaire 200 de plus, ce n'est pas une extension et ce sera appréhendé comme une construction neuve. La première question que l'auditeur va devoir se poser, c'est celle de l'autorisation administrative qui sera nécessaire. Il faut savoir que les autorisations administratives vont dépendre de la situation, c'est-à-dire du lieu géographique du projet ou éventuellement de la surface du projet. Alors, c'est vaste ces questions, il y a vraiment une dentelle dans le code de l'urbanisme, mais s'il fallait synthétiser, il faudrait d'abord vous dire que la première vérification à opérer, c'est de savoir si vous êtes en zone urbaine, donc dans une zone U au plan local d'urbanisme. On verra peut-être dans d'autres questions d'auditeurs comment est-ce qu'on détermine où est situé son bien, mais à ce stade-là, disons que si vous êtes dans une zone urbaine, vous allez avoir un régime juridique particulier qui va dépendre principalement de la surface que vous allez vouloir construire. Souvent, on entend qu'en dessous de 5 mètres carrés, on fait ce qu'on veut. C'est erroné. En dessous de 5 mètres carrés, on fait ce qu'on veut si on est sur une construction nouvelle. C'est-à-dire que si vous voulez faire un petit abri de jardin qui fait 2 mètres carrés, effectivement, ce n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme. À l'inverse, si vous voulez faire une extension de 4 mètres carrés et demi, vous allez, dès ce stade-là, devoir obtenir une décision de non-opposition à déclaration préalable parce que vous modifiez l'aspect extérieur, la manière dont vous allez modifier l'aspect architectural de votre maison existante. Donc, en dessous de 5 mètres carrés, c'est déjà une déclaration préalable et surtout, c'est la chose la plus classique, entre 5 et 40 mètres carrés, il vous faut procéder à une déclaration préalable sur la base de laquelle vous obtiendrez une décision de non-opposition à déclaration préalable. Et j'insiste, c'est pas parce qu'on dit déclaration préalable qu'il suffit de le faire, il faut bien attendre une réponse. On verra que cette réponse peut être explicite ou implicite à l'expiration de certains délais, mais il faut bien obtenir une autorisation. Alors bien sûr, il y a des subtilités, c'est-à-dire que si vous voulez faire plus de 20 mètres carrés, mais que votre maison fait déjà 140 mètres carrés par exemple, et que donc vous allez basculer au-delà des 150 mètres carrés, vous devez d'emblée obtenir un permis de construire. Et je vous précise aussi que dans ce cas-là, vous devrez avoir recours au service d'un architecte. Donc vous le voyez, il y a certaines subtilités. Et puis la dernière catégorie, c'est de vous dire qu'au-delà de 40 mètres carrés, il vous faudra toujours un permis de construire. Et là aussi, si vous passez le seuil des 150 mètres carrés pour votre maison individuelle, vous êtes dans l'obligation de recourir au service d'un architecte. Je vous le disais tout à l'heure, ça vaut en zone urbaine. Si vous êtes hors zone urbaine, la principale différence, c'est que le seuil à partir duquel s'imposera toujours un permis de construire, ce n'est pas 40 mètres carrés dans certains cas, mais c'est toujours 20 mètres carrés. Et puis également vous dire qu'il existe des secteurs protégés dans lesquels, là aussi, c'est le seuil de 20 mètres carrés qui va s'imposer pour exiger le permis de construire. Et lorsque je parle de secteur protégé, et pour prendre un vocabulaire qui est plus habituel, ce sont notamment les fameux secteurs architectes des bâtiments de France. Vous savez, donc lorsque vous êtes dans le périmètre d'un monument historique, là, si vous voulez faire une extension de 22 mètres carrés, même si vous êtes en pleine ville, il vous faudra obtenir un permis de construire. Voilà, donc des vérifications à opérer, des vérifications qui sont parfois un petit peu compliquées à opérer. Il ne faut pas hésiter à interroger un architecte, à interroger les services de la mairie, ou éventuellement, selon la configuration, à interroger évidemment un avocat. Dans la question de l'auditeur, on nous demande ensuite quelles sont les principales étapes à respecter pour obtenir cette autorisation d'urbanisme et combien de temps est-ce que cela dure. Alors, la première étape, aussi évidente que ce soit, ça va être de déterminer les règles applicables. Déterminer les règles applicables, c'est ce qu'on vient de se dire, quel type d'autorisation il va me falloir obtenir. Mais c'est ensuite déterminer les règles de fond qui sont applicables. Quand on dit règles de fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois déterminer si j'ai, par exemple, une emprise au sol maximum qui s'impose sur ma parcelle, un coefficient de végétalisation, un coefficient d'espace vert, un coefficient de pleine terre, une hauteur maximum, des règles d'insertion, des règles de coloris, des règles de stationnement. Ce sont des vérifications que je vais devoir faire, même pour une extension. Il ne faut pas penser que parce que c'est a priori une petite construction, les règles de fond seraient mises à l'écart. Non, au contraire, il faut être absolument vigilant sur ce point-là. Et là encore, il faut interroger les services de l'urbanisme, il faut interroger un architecte, il faut éventuellement interroger un avocat selon la complexité du sujet. Une fois qu'on a déterminé ce cadre dans lequel on va devoir entrer, il va falloir procéder au montage du dossier, monter son dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. C'est prévoir un certain nombre de pièces. Les pièces, elles sont listées de manière précise par le code de l'urbanisme. À la fois, vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez, mais la collectivité ne peut pas non plus vous demander ce qu'elle veut. Une fois que votre dossier est complet, vous le déposez en mairie. Soit vous le déposez en papier, soit vous le déposez par Internet, par des outils en ligne qui se développent évidemment de plus en plus. Et là va débuter l'instruction. Le principe pour une déclaration préalable, c'est que vous allez avoir une instruction d'un mois. Pour un permis de construire sur une maison individuelle, vous allez avoir un délai d'instruction de 2 mois. Et pour les autres permis de construire, un délai d'instruction de 3 mois. Sachez néanmoins que la collectivité va pouvoir rallonger les délais. Elle va pouvoir rallonger les délais notamment si elle a besoin de pièces parce que votre dossier était incomplet. Ou elle va pouvoir rallonger les délais si elle doit procéder à des consultations et notamment si elle doit consulter l'architecte des bâtiments de France. Et puis si tout va bien, si votre dossier est complet et que toutes les règles sont respectées, vous obtiendrez votre autorisation d'urbanisme, vous l'afficherez et nous verrons plus tard quelles sont vos obligations en matière. Et puis, parce que tout va bien, votre autorisation deviendra définitive, elle ne sera pas contestée et vous pourrez la mettre en œuvre en n'ayant pas oublié de procéder à votre déclaration d'ouverture de chantier et en fin de chantier à votre déclaration d'achèvement et de conformité.
Merci pour cette réponse précise et technique. Donc, je comprends que ça dépend de la nature de l'extension, ça dépend du lieu où on habite, donc des spécificités et une maîtrise de la matière. Si on veut s'adresser à un avocat, il faut vraiment s'adresser à un avocat très spécialisé, extrêmement compétent en tout cas.
En tout cas, ça appelle des vérifications qui sont très circonstanciées et il ne faut pas penser que parce qu'on a déjà traité ou parce qu'on s'est déjà intéressé à une problématique sur une commune A, ça fonctionnera sur la commune B.
Voilà, la spécificité du territoire avec des règles d'urbanisme différentes en fonction du lieu d'habitation.
En tout cas, il faut le vérifier.
Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse comme de la dentelle. Merci Maître Julien Lalanne. Nous faisons une nouvelle pause musicale avant de poursuivre les questions des auditeurs, cette fois avec notre confrère Jonathan Thomas. À tout de suite.
Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, son navire, son navire, son navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène j'ai laissé mon sourire, mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement j'avais su te le dire avant. De nos années j'ai gardé ton sourire, ton sourire, ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire, dans le pire, dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années j'ai gardé ton sourire, ton sourire. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de cacher la photo.
j'aurais su te le dire avant. Si seulement.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Nous poursuivons aujourd'hui notre émission consacrée au droit public avec Maître Jonathan Thomas. Une première question pour vous, Maître Jonathan Thomas.
Oui.
Un auditeur nous envoie cette question. J'ai entendu parler de la nouvelle liste des métiers en tension qui facilite l'obtention d'un titre de séjour salarié pour les étrangers. Concrètement, est-ce que cela veut dire qu'un employeur peut plus facilement recruter un travailleur étranger dans ses secteurs ?
Alors, en principe, oui. Il faut savoir effectivement que la liste des métiers en tension a été définie par un arrêté du 21 mai 2025 que nous attendions de nos voeux avec mes confrères, puisque cette liste a mis beaucoup de temps à être produite. Et elle définit les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers où on a besoin de main-d'œuvre, où on a besoin effectivement de personnel. Donc, il faut savoir que cet arrêté définit des métiers en tension par région. Voilà. Donc vous avez une liste des métiers qui est définie pour l'Île-de-France, une autre pour la région Rhône-Alpes, une autre pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc évidemment, cette liste dépend de là où l'employeur va effectivement avoir besoin de main-d'œuvre. Donc ça, c'est le premier point. Alors, il faut savoir que en réalité, ça n'est pas automatique. En principe, ça permet d'être régularisé plus facilement parce que on est dans un secteur professionnel en tension, mais le préfet peut tout à fait à tout moment refuser malgré tout une admission au séjour d'un ressortissant étranger qui va demander une carte de séjour en qualité de salarié. Il faut savoir en réalité que cette liste des métiers en tension, qui est un arrêté, on y fait référence dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui est donc défini par le CESEDA et qui permet à un ressortissant étranger qui réside en France depuis un certain nombre d'années et qui a également cumulé des bulletins de salaire sur le territoire français avec un travail déclaré et qui va pouvoir déposer ce qu'on appelle une demande d'admission exceptionnelle au séjour, une demande de titre de séjour. Voilà. Et donc effectivement, il dépose cette demande dans la préfecture du ressort de son domicile et à ce moment-là, son dossier est instruit. Aujourd'hui, on dépose les dossiers principalement pour les trois quarts des préfectures de manière dématérialisée sur le site Démarche Simplifiée et c'est ce qui permet donc de déposer la demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'employeur fait une promesse d'embauche, c'est un formulaire SERFA qu'il remplit où il communique également toute une série de documents type CABIS, statut de la société, dernier bordereau de cotisation URSSAF, toute une série de documents que l'on appelle dans notre jargon le pack employeur et qui va permettre ensuite à la préfecture de pouvoir examiner le dossier. Pas seulement par rapport à la situation de l'emploi que le salarié veut occuper, mais également par rapport aussi à son parcours en France, à son nombre d'années de présence et à son expérience professionnelle sur le territoire français. Et donc, à partir de là, le préfet peut décider soit de régulariser sa situation et de lui remettre ce qu'on appelle une carte de séjour temporaire. Et là, en l'occurrence, puisque la question concerne en fait un aspect professionnel, elle portera la mention salarié, soit effectivement, et j'en venais à ce que je disais tout à l'heure, il peut refuser et délivrer aux ressortissants étrangers ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français que la personne pourra contester devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours ou d'un mois pour la plupart des cas. Donc évidemment, dans le cadre de cette admission exceptionnelle au séjour, c'est là où cet arrêté des métiers en tension intervient, puisqu'effectivement, pour répondre à la question de l'auditeur, il sera plus facile d'être régularisé par le travail si effectivement vous demandez à occuper un emploi qui figure dans cet arrêté qui définit les métiers en tension que si votre emploi n'y figure pas. Ceci étant, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, il n'y a pas d'automaticité, c'est là encore toujours à l'appréciation souveraine du préfet, mais c'est vrai qu'il est plus facile quand même d'être régularisé sur le territoire français lorsqu'on veut occuper un métier qui figure dans cet arrêté du 21 mai 2025.
Merci pour cette réponse très précise et d'actualité. Et donc vous assistez les étrangers et également les employeurs, parce que vous parliez de ce pack employeur, les employeurs aussi ont parfois la nécessité de s'adresser peut-être à un avocat pour être accompagné.
C'est vrai, votre question est très intéressante. Moi j'assiste effectivement les ressortissants étrangers, mais on est en relation aussi avec leur employeur, parce qu'ils sont souvent un peu perdus dans les démarches administratives. Et donc évidemment on est là pour les aiguiller sur comment remplir le SERFA, quelles pièces communiquer. Et on est à leur côté également pour les aider à constituer le dossier. Parfois aussi, les employeurs, ça c'est le cas dans le cadre des demandes de changement de statut, ou alors dans le cadre aussi des ressortissants étrangers qui demandent un visa travail pour venir sur le territoire français, avec un visa long séjour valant titre de séjour. Les employeurs peuvent aussi par eux-mêmes, parfois dans certaines situations, déposer une demande d'autorisation de travail sur France Travail. Alors là, effectivement, ça n'est pas dans le cas de l'admission exceptionnelle au séjour où les salariés étrangers sont déjà en France. On est plutôt effectivement davantage sur les demandes de changement de statut ou les demandes de visa pour les salariés étrangers, mais qui sont à l'étranger et qui demandent un visa travail pour venir travailler en France. Donc l'employeur, effectivement, il est confronté à des démarches administratives auprès des préfectures, et nous, en tant qu'avocats, on peut également les assister.
Bon, merci beaucoup pour cette réponse. Je vous propose d'aborder cette seconde question qui, je pense, a un lien avec ces changements de statut. Enfin, vous me direz si je me trompe. Un auditeur nous écrit pour nous dire son fils est étudiant en France. Il est de nationalité marocaine. Il se demande quelles sont les conditions pour rester après ses études. Faut-il absolument avoir un contrat dans un métier en tension ou y a-t-il d'autres possibilités ?
Alors oui, la question, elle est très intéressante et elle fait écho à ma précédente réponse. Alors là, on part du postulat, effectivement, par rapport à la question de votre auditeur, que le fils de cette auditrice a une carte de séjour, a priori, puisque s'il est étudiant sur le territoire français, ça veut dire qu'a priori, il est venu avec un visa élève étudiant et qu'il a pu obtenir, pour poursuivre ses études en France, une carte de séjour temporaire élève étudiant qu'il a pu renouveler chaque année et qui est soumis à l'obtention de diplômes et qui permet à la préfecture, eh bien, chaque année, de renouveler la carte de séjour élève étudiant pour que l'étudiant puisse obtenir son diplôme en France. En principe, la nature d'un titre de séjour élève étudiant, c'est de rester pour ses études en France et de repartir. Mais il est tout à fait possible de rester en France et de faire ce que j'appelle une demande de changement de statut, c'est-à-dire de passer du statut élève étudiant au statut salarié. Ça, c'est tout à fait possible. Et en réalité, il n'est pas obligatoire d'occuper un métier en tension. Là, on est très très clair. En réalité, la condition juridique pour effectuer un changement de statut d'élève étudiant à salarié, c'est que vous devez d'abord avoir obtenu un diplôme sur le territoire français et vous devez également avoir un contrat de travail en corrélation avec le diplôme que vous avez obtenu. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et vous avez également un délai qui vous est laissé où vous pouvez avoir une autorisation provisoire de séjour pour chercher un emploi en corrélation avec le diplôme que vous avez obtenu et qui vous permettra par la suite d'obtenir une carte de séjour salariée. Donc si vous voulez, pour répondre à la question de votre auditrice, la préfecture va regarder toutes ces conditions-là, le diplôme obtenu, le contrat de travail, le lien entre le contrat de travail et la nature du diplôme. Il y a effectivement des critères par rapport au nombre d'heures travaillées, par rapport à la durée du contrat, et à ce moment-là, la préfecture peut tout à fait régulariser le changement de statut et accorder un titre de séjour salarié, soit directement avant l'expiration de la carte de séjour salarié, si effectivement l'étudiant s'y est pris suffisamment tôt, soit après l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour où il aura pu bénéficier d'un laps de temps pour chercher un emploi. Attention, ce type de changement de statut, il faut respecter aussi des délais. C'est extrêmement important puisqu'il faut faire les démarches avant l'expiration de la carte de séjour élève étudiant. Beaucoup de mes clients viennent me voir, parfois malheureusement quand il est un peu tard, où en fait ils ont laissé expirer les délais, la carte de séjour est expirée et il est beaucoup plus difficile, voire impossible, de faire une demande de changement de statut après l'expiration de la carte de séjour. Donc il est très important d'être vigilant sur les délais à respecter et bien faire ses démarches au moins 3 mois avant la date d'expiration de la carte de séjour.
Oui, donc vous avez raison de le préciser, d'anticiper les changements de situation, les expirations des titres,
pour
faire le point avec un avocat à ce moment-là.
Quand l'étudiant arrive à la fin de son cycle d'études, il doit effectivement commencer à voir les perspectives d'emploi, soit demander effectivement une autorisation provisoire de séjour pour lui laisser le temps de chercher un emploi s'il n'a pas trouvé d'emploi, soit s'il a une promesse d'embauche ou un salarié ou un employeur qui est prêt à le suivre, notamment dans le stage qu'il a pu faire durant ses études et qui veut l'embaucher, formaliser un contrat travail qu'on va pouvoir soumettre à la préfecture pour demander le changement de statut.
Et donc là, l'auditeur était de nationalité marocaine. Peut-être effectivement rappeler qu'il y a des accords bilatéraux qui trouvent à s'appliquer.
Bien sûr. Alors effectivement, il faut savoir que tout cela est régi par le CEDEDA, mais qu'il y a également des accords bilatéraux entre la France et le Maroc. Mais il y en a également entre la France et d'autres pays. Il y a une spécificité aussi avec l'Algérie, où il y a l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968, qui régit effectivement en marge du CESEDA, eh bien, les rapports entre la France et les ressortissants algériens.
Oui, c'est un contentieux aussi qui est intéressant historiquement, hein, de bien connaître les relations entre la France et notamment ses anciens territoires.
Bien sûr, puisqu'on a un passé effectivement avec l'Algérie, c'est aussi ce qui explique cette différence juridique et cette particularité. Et c'est vrai que le droit des étrangers est aussi à la lisière avec notre histoire. Et ça, c'est assez passionnant et c'est aussi la raison pour laquelle moi j'interviens dans ce domaine.
Non, moi, je partage en tout cas votre enthousiasme et du coup la nécessité aussi de maîtriser ces textes-là et de s'adresser encore une fois à des avocats qui pratiquent la matière compte tenu des enjeux et puis des particularités que vous avez rappelées.
Exactement, il y a des spécificités et j'attirais également l'attention des auditeurs sur le fait que les délais d'instruction des demandes d'admission au séjour sont longs. Hein, ça, il faut effectivement le dire. Voilà, on est sur plusieurs mois, voire même parfois sur plusieurs années. Alors, c'est vrai que pour les admissions au séjour avec les métiers en tension, la petite spécificité, c'est que l'instruction peut parfois être peut-être un peu plus rapide parce qu'effectivement, comme on a besoin de régulariser dans des métiers en tension, il est possible effectivement que ça prenne un petit peu moins de temps, mais il faut quand même s'armer de patience pour les demandeurs de titres de séjour en France, parce qu'effectivement, les délais d'instruction sont quand même particulièrement longs, et d'où l'intérêt d'avoir un avocat à ses côtés pour pouvoir éventuellement relancer, voire parfois, si c'est nécessaire, saisir le tribunal administratif pour créer une décision qui permette d'enjoindre le préfet à statuer dans un dossier.
Parce que rappelez que le système, effectivement, est un peu saturé. Donc, ces demandes en préfecture sont extrêmement longues. Les titres de séjour expirent, d'où la nécessité de saisir le tribunal administratif.
C'est très, très long. On saisit souvent le tribunal administratif parce que les procédures sont longues. Et on a aussi des problématiques en matière de renouvellement de titres de séjour parce que tout aujourd'hui est dématérialisé. C'est soit sur démarche simplifiée, soit sur la nef. Et donc, évidemment, c'est compliqué parce que on a moins d'interlocuteurs au guichet, parce qu'on est face à l'outil numérique. Et donc, évidemment, parfois, on ne s'en sort pas et on a besoin d'un avocat pour intervenir auprès de ces outils numériques, voire pour saisir le tribunal administratif si vraiment on est dans une impasse.
Puisqu'il fut un temps où on allait physiquement en préfecture déposer son dossier, où les avocats pouvaient se déplacer en préfecture.
Tout à fait. Moi, j'ai connu à mes débuts parfois les heures, voire même les nuits passées où mes clients attendaient pour effectivement déposer un dossier. Et aujourd'hui, tout est numérique. Il y a des avantages, puisqu'effectivement, ça permet d'éviter quand même des longues files d'attente devant les préfectures où humainement, c'était des situations difficilement gérables. Malheureusement, on enlève aussi un peu d'humanité dans le traitement de ces dossiers et c'est un petit peu le revers de la médaille, malheureusement.
Et j'en profite pour aussi indiquer aux auditeurs que sur des sujets spécifiques, je pense au fait que pendant un moment, les étrangers n'arrivaient plus à avoir accès aux plateformes, n'arrivaient plus à avoir accès pour avoir des rendez-vous, pour déposer les dossiers. Le défenseur des droits avait pris une décision sur ce point-là.
Tout à fait.
Et le défenseur des droits, une autorité administrative indépendante qui peut parfois être intéressante de ces lorsqu'on a des litiges avec l'administration.
C'est vrai que mes clients saisissent de temps à autre et c'est parfois extrêmement utile parce que ça permet d'accélérer effectivement les choses et le traitement de leurs dossiers. Aujourd'hui, c'est vrai que sur la prise de rendez-vous pour les dépôts de dossiers, la question a été un peu réglée avec la dématérialisation. Voilà. Mais le pendant, c'est que les délais d'instruction sont parfois longs et on attend malheureusement parfois plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette actualisation passionnante. Je vous propose de poursuivre les questions avec notre confrère Raphaël Cabral, mais juste avant ça, une petite pause musicale. À tout de suite.
I can't prazer em conhecer o causador de todo o teu sofrer. E eu vim de longe só pra te dizer: tu é o meu mal querer.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous écoutez toujours l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Nous poursuivons de répondre, nous poursuivons nos réponses. C'est plus français, hein. Aux questions des auditeurs avec Maître Raphaël Cabral, des questions cette fois en droit de la fonction publique. Je suis fonctionnaire territorial et je suis convoquée devant le conseil de discipline. Quels sont mes droits et quelles sanctions peuvent être prononcées à mon encontre ?
Alors, je vais répondre à l'auditeur qui a posé la question. Il faut comprendre comment s'articule la procédure disciplinaire en matière de fonction publique et en matière de fonction publique territoriale. Il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est la collectivité territoriale qui va engager une procédure disciplinaire et qui va le faire savoir auprès de son agent en lui indiquant la sanction qu'il envisage d'infliger à l'issue de la procédure. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est le conseil de discipline. Et la troisième étape, alors le conseil de discipline émet un avis qui n'est pas contraignant. Et la troisième étape, c'est la collectivité territoriale qui suit ou qui ne suit pas en fonction l'avis qui lui est donné par le conseil de discipline. Alors tout fonctionnaire, tout agent titulaire qui est visé par une procédure disciplinaire bénéficie de droits. Alors ces droits, bon, je vais pas faire un catalogue, mais le premier, c'est droit essentiel, c'est l'accès au dossier individuel. Deuxième droit essentiel, c'est la possibilité de présenter des observations orales et écrites lors du conseil de discipline. Troisième droit, c'est le fait de se faire assister, le cas échéant, par un syndicat, parce que ça se passe souvent avec des syndicats ou par un avocat. Et à titre personnel, c'est très intéressant en tant que professionnel d'aller plaider. Moi, j'ai l'habitude d'aller plaider devant les conseils de discipline. C'est super intéressant d'aller plaider devant le conseil de discipline en qualité d'avocat. Et le dernier droit essentiel d'un agent, c'est présenter des observations et, le cas échéant, de garder le silence. Ça, c'est les dernières évolutions jurisprudentielles. Donc ça, ce sont des droits qui sont reconnus. Après, ce qui est intéressant peut-être pour l'auditeur, c'est de comprendre comment ça va se passer au sein du conseil de discipline. Alors, conseil de discipline en matière de fonction publique territoriale est présidé par un magistrat administratif. Et vont siéger des représentants des agents et des représentants des collectivités territoriales. Le conseil de discipline se passe de la manière suivante. Dans un premier temps, la collectivité territoriale, sur la base d'un rapport introductif qu'elle a rédigé, va exposer au conseil de discipline les raisons pour lesquelles elle est obligé d'engager une procédure disciplinaire à l'égard de l'agent, les fautes qui lui sont reprochées et la sanction qu'elle envisage de lui infliger. À partir de là, l'agent et son conseil, donc ça peut être son avocat, ont la possibilité de répondre point par point aux différents griefs. Ensuite, souvent, la pratique, c'est qu'il y a énormément de questions, c'est-à-dire qu'on plaide plus devant un conseil de discipline finalement que devant le tribunal administratif. Il y a énormément de questions posées par les agents, les représentants. À partir de là, les débats sont clos et le conseil de discipline, l'instance disciplinaire, émet un avis. Et là, la collectivité a la possibilité, si elle est satisfaite de l'avis, de le suivre, ou si elle n'est pas satisfaite de l'avis, de rester sur sa position de base, c'est-à-dire je ne suis pas l'avis émis par le conseil de discipline. Alors, à titre personnel, je pense que moi, je demande toujours aux clients de ne pas négliger cette phase. Parce que comme l'avis est émis par un conseil de discipline qui est présidé par un magistrat administratif, si la sanction proposée et infligée est sévère, après c'est beaucoup plus difficile d'aller devant le tribunal administratif en disant « Mais vous savez, le conseil de discipline a entendu l'affaire pendant une heure et demie, et ils se sont trompés sur tout, etc. » Donc c'est vrai que parfois, vaut mieux aller assister au conseil de discipline que les mains dans les poches et en négligeant cette procédure. Et alors sur les sanctions qui sont possibles, alors pas faire non plus un catalogue, il y a quatre catégories de sanctions. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, quatrième catégorie. La première catégorie, pas besoin d'avoir un avis du conseil de discipline. C'est l'avertissement, le blâme ou une exclusion temporaire de fonction qui peut pas dépasser 3 jours. Deuxième catégorie, il y a toute une série aussi de sanctions envisageables, mais globalement, c'est l'exclusion temporaire, ça veut dire on ne travaille pas, on n'est pas payé, entre 4 et 15 jours, ou le déplacement d'office. Troisième catégorie, bah, c'est une exclusion temporaire entre 16 jours et 2 ans. Et la quatrième catégorie, c'est les sanctions excessivement sévères, c'est l'exclusion définitive, c'est-à-dire la révocation, ou la mise en retraite d'office. Donc pour répondre à l'auditeur, bon, si ça se passe pas forcément super bien au conseil de discipline et que la sanction est un peu sévère, il peut tout à fait la contester devant le tribunal administratif, c'est un recours en annulation, il n'est pas d'accord avec la décision. Et si éventuellement bah, il est exclu pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, et que pendant cette période-là, il va être privé de travail et de rémunération, il peut donc présenter un deuxième recours, qui est un recours en suspension, qui est ouvert devant le juge des référés du tribunal administratif, et qui est ouvert si 2 conditions sont remplies. Première condition d'urgence, bah, c'est sûr que pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, si vous êtes privé de rémunération, ça peut poser une difficulté pour votre vie personnelle. Et deuxième condition, un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Est-ce que vous pourriez juste rappeler le délai dont dispose le fonctionnaire pour attaquer la...
Deux mois à compter de la notification.
Voilà,
de la sanction.
L'importance de ces délais, et vous avez raison d'insister sur le fait qu'il ne faut pas négliger ces instances disciplinaires où on peut être assisté d'un avocat comme vous, par exemple. Ouais. Merci à vous. Nouvelle question pour vous d'un auditeur qui nous indique « Je suis agent de sécurité depuis 13 ans. Le 31 mai 2025, j'ai demandé le renouvellement de ma carte professionnelle auprès du CNAPS. À ce jour, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si ma demande a été acceptée ou pas. J'imagine que mon dossier peut bloquer parce que j'ai été mis en cause dans 2 procédures depuis le précédent renouvellement. Ces 2 procédures ont entraîné un classement sans suite. » Que puis-je faire à l'égard du CNAPS? Comment régler la situation aussi à l'égard de mon employeur qui m'a rappelé que ma carte professionnelle est valable jusqu'au 1er septembre 2025?
Alors ça, c'est une question à la fois technique et intéressante pour un praticien, pour un avocat, parce que ça va faire appel à des connaissances en droit administratif, mais aussi en droit du travail ou même en procédure pénale. Parce qu'on n'est pas... On est spécialisé, mais il faut quand même avoir 2-3 réflexes sur les autres disciplines qu'on a l'habitude de gérer. Donc là, s'agissant de cet auditeur agent de sécurité, alors la première chose pour bien comprendre, agent de sécurité, ils ne peuvent exercer leur activité que s'ils sont habilités par l'octroi d'une carte professionnelle qui a une durée de 5 ans. Là, il a demandé le renouvellement de sa carte le 31 mai 2025. Il n'a pas eu de réponse. Donc, à l'issue d'un délai de 2 mois, il y existe, voilà, c'est comme ça, une décision implicite de refus. C'est-à-dire que l'administration, sans exposer les motifs, sans exposer les raisons, lui a dit non, on ne renouvelle pas la carte professionnelle. Donc là, ce que je lui conseille, c'est qu'il a 2 mois pour engager des procédures et contester cette décision implicite de refus. Donc il peut le faire soit par un recours gracieux, c'est-à-dire qu'il va demander au CNAPS de réétudier sa demande, sa demande de carte professionnelle. Soit il peut aller directement devant le tribunal administratif en disant bah, « moi j'ai fait une demande et j'ai pas eu de réponse, donc ça vaut refus ». Je suis plutôt à lui conseiller d'aller faire un recours gracieux parce que il faut que le CNAPS se positionne sur les raisons pour lesquelles il y a eu non-renouvellement de la carte professionnelle. Est-ce que c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement de l'administration? Ça peut arriver. Est-ce que c'est parce que le CNAPS est informé de ces procédures dans lesquelles il a été mis en cause? Donc c'est pour cette raison-là que je privilégie le recours gracieux pour que la position du CNAPS soit expresse. Parallèlement, faut pas s'endormir parce que ce qu'il faut, c'est de faire 2 choses. Première chose, il faut avoir des éléments sur les 2 procédures où il a été mis en cause. Donc il faut à minima demander un avis de classement sans suite au parquet. Il faut aussi, et ce que je fais souvent avec mes clients, c'est qu'il faut demander le dossier pénal dans lequel il a été mis en cause et qui a donné lieu à un classement sans suite. Pourquoi? Parce que ça permet de connaître un peu voilà, les motifs qui ont fait qu'il a été auditionné, mis en tout cas placé en garde à vue. Donc ça, c'est important. C'est des démarches à faire auprès du tribunal, auprès du bureau d'ordre du tribunal qui est territorialement compétent par rapport à la procédure où il a été mis en cause. On espère que le CNAPS va prendre position. Si le CNAPS prend position et dit « Ah bah, tel jour, vous avez été placé en garde à vue pour tel fait, vous voyez, vous avez les éléments pour pouvoir y répondre. D'accord ? Donc là, il faut attendre, il faut voir ce que fait le CNAPS. Je pense que au bout d'un mois, s'il n'y a pas de réponse du CNAPS, il faut saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision. Parallèlement, ce qui est important, c'est aussi de préserver la situation professionnelle de l'agent. Et c'est là où ça peut faire appel à des connaissances en matière de droit du travail. Il faut recommander au salarié de se placer en congé. D'accord ? Pendant la période de congé, il va continuer à être payé et l'employeur va pas être trop regardant sur la carte professionnelle, est-ce qu'elle est valable ou pas la valable. À l'issue des congés payés, eh bien là, il faut qu'il soit placé en congé sans solde. Il faut demander à l'employeur en réalité de suspendre le contrat de travail. Ça implique pour le salarié quoi ? Bah, j'ai pas de travail, j'ai pas de salaire, mais j'ai pas mon contrat de travail rompu. Parce qu'un employeur, au 1er septembre, il peut tout à fait se dire, bah lui, le salarié ne peut plus travailler, il a pas de carte professionnelle, je ne sais pas trop véritablement où l'on est de ses démarches, je peux tout à fait engager une procédure de licenciement à son encontre, et alors là, c'est absolument incontestable devant une juridiction prud'homale. Vous n'avez pas l'autorisation qui vous permet d'exercer votre activité. Donc là, c'est un motif qui peut tout à fait justifier la rupture. Donc en conclusion, il faut écrire, faire le recours gracieux, il faut attendre que le CNAPS se positionne. Si ils font référence à des faits de matière pénale, et bah d'apporter les explications en disant bah, finalement c'est un malentendu ou il y avait eu un classement sans suite, donc s'il y avait véritablement aucune réalité. Et le cas échéant, s'il y a une réponse expresse du CNAPS ou toujours pas de réponse, il faut aller devant le tribunal administratif et assortir ce recours une nouvelle fois, et moi c'est ce que je fais dans le cadre de mon activité, mais d'une demande de référé suspension, parce que le tribunal administratif, on peut en parler, mais les délais d'instruction et de jugement, c'est pas un an et demi, deux ans, c'est plutôt trois ans. Donc quel est l'intérêt pour le salarié dans trois ans d'avoir finalement une décision sur la carte professionnelle dont il n'a pas eu le renouvellement trois ans auparavant? Il sera passé à autre chose, il aura une autre activité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un recours urgent devant le tribunal administratif, devant le juge des référés, visant à suspendre la décision de manière urgente et qui est manifestement illégale.
Merci pour ces précisions à l'attention de cet auditeur qui se trouve dans une situation d'urgence vu les dates qu'il nous a indiquées dans son mail. Maître Julien Lalanne, nous avons encore reçu des questions pour vous en droit de l'urbanisme. Cette nouvelle question d'un auditeur: je viens d'obtenir un permis de construire. De quel délai disposent les voisins pour contester ce permis ?
Merci Sonia pour cette question. Alors bravo à cet auditeur d'avoir obtenu son permis de construire. C'est une première étape évidemment fondamentale dans son projet de construction ou d'agrandissement. Maintenant, cette première étape, elle va être suivie d'autres étapes, et notamment il va falloir ce qu'on appelle assurer la purge du permis de construire. Alors l'expression est un peu surprenante, mais l'idée c'est de s'assurer que ce permis de construire devienne définitif et que l'auditeur titulaire de ce permis de construire puisse le mettre en œuvre de manière sereine, sans penser que ce permis de construire pourrait être un jour annulé par une juridiction administrative. Alors pour le dire très simplement, pour répondre à la question de base, de quel délai dispose le voisin dispose d'un délai de 2 mois. C'est de manière générale le délai qui s'applique en droit administratif, sous réserve, mes confrères l'ont dit, de délais particuliers, notamment en droit des étrangers, mais en droit de l'urbanisme en règle générale, ce délai est de 2 mois. Vous parlez d'un délai, c'est par contre savoir comment on le détermine, 2 mois à partir de quand. Et en matière de permis de construire, le délai de 2 mois va commencer à courir à compter du premier jour de l'affichage de votre permis de construire sur le terrain. Et c'est donc à vous, qui venez d'obtenir ce permis de construire, d'assurer cet affichage, vous savez, en recourant à ces grands panneaux qu'on voit régulièrement dans nos villes, des grands panneaux de plus de 80 cm, sur lesquels on va devoir apposer un certain nombre de mentions qui vont permettre d'assurer l'information des voisins, l'information des tiers, dit-on. Cet affichage, je ne peux qu'inviter l'auditeur à le faire constater. Et le faire constater, c'est le faire constater par un commissaire de justice. Vous savez, c'est le nouvel intitulé, enfin le nouveau vocable pour les huissiers, les anciens huissiers, les huissiers de justice. Et donc le commissaire de justice dressera au moins 2 constats au premier jour et 60 jours après. Et cela permettra à l'auditeur de démontrer la réalité et la durée de son affichage. Évidemment, cet affichage, ce n'est pas n'importe quel affichage, c'est un certain nombre de mentions obligatoires, la hauteur, le lieu où on peut consulter le dossier, la surface qui va être construite, la nature du projet, et il faut veiller aux mentions que vous allez apposer sur votre permis. Attention aux fausses bonnes idées qui consisteraient à penser que faire une photo avec un journal ou des petites combines un petit peu comme ça où on veut se faciliter la vie. Alors, pourquoi pas ? Parce que le juge peut éventuellement considérer ces éléments dans le cadre d'un faisceau d'indices pour démontrer la réalité d'un affichage. Mais je crois que vraiment le message qu'il faut passer à nos auditeurs, c'est de dire que lorsqu'on a un projet de construction, l'investissement d'un constat d'huissier est assez relatif et il ne faut pas hésiter à recourir donc à ce constat par un professionnel qui est la seule preuve qui sera insusceptible d'être remise en cause. Pour répondre à la question de l'auditeur, il faut aussi savoir ce qu'on entend par un recours. De quel délai dispose mon voisin pour contester, pour faire un recours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire un recours ? Dans le vocabulaire le plus évident, faire un recours, c'est saisir un tribunal, saisir le tribunal administratif. Par contre, il faut savoir que dans cette matière du droit de l'urbanisme, comme dans d'autres matières, le recours devant le tribunal peut être précédé d'un recours gracieux. Et donc le voisin peut ne pas saisir directement le tribunal administratif, mais peut s'adresser à l'autorité qui a délivré le permis de construire, le maire, dans l'essentiel des hypothèses, et donc saisir le maire d'une demande de retrait du permis de construire en faisant valoir que ce permis méconnaîtrait les règles qui lui sont applicables. Là, il faut une certaine vigilance sur les délais. Le recours gracieux doit intervenir dans le délai de 2 mois de l'affichage. S'il intervient dans le délai de 2 mois de l'affichage, il va interrompre le délai pour saisir ensuite le tribunal. Le maire aura 2 mois pour répondre à ce recours gracieux. Si dans ce délai de 2 mois, il le rejette expressément, alors le nouveau délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif commence à courir. À l'inverse, si le maire ne répond pas au recours gracieux pendant 2 mois, alors cela emporte rejet implicite du recours gracieux et le délai pour saisir le tribunal administratif recommence automatiquement à courir. Donc il y a un peu de calcul à opérer, il faut être assez vigilant. Il faut être d'autant plus vigilant qu'il faut savoir, et la jurisprudence est désormais très claire, que la date qui est prise en compte pour les recours, c'est la date à laquelle ils sont envoyés, ou à la date à laquelle ils sont déposés, envoyés au tribunal ou envoyés à la mairie. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est pas pile au bout de 2 mois qu'on sait si notre permis il est définitif, mais il faut tenir compte de délais d'acheminement, de délais postaux. Et puis, il vous faut aussi savoir que le voisin, s'il attaque votre permis de construire, il va devoir vous le notifier dans un délai de 15 jours, et là encore, ce délai de 15 jours, c'est un délai d'envoi. Donc finalement, de manière générale, ce qu'on considère, c'est qu'on va pouvoir commencer à souffler lorsqu'on aura procédé à son affichage, fait réaliser les 2 constats, attendu 2 mois plus les 15 jours de notification, plus encore 3, 4, voire sans être désagréable avec les services postaux, 1 semaine de délai qui peut être le délai d'acheminement du pli. Et à ce moment-là, si effectivement on n'a aucune information sur l'existence d'un recours quelconque, on peut espérer souffler. Et si on veut être un petit peu plus sûr du caractère définitif de son permis de construire, ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs, c'est de s'adresser à la mairie pour demander une attestation de non-recours. Je vous précise qu'il faut aussi combiner cette question du recours avec le délai de retrait administratif, qui est un délai de 3 mois à compter de la date de l'arrêté. Donc il y aura là aussi des petits calculs à faire. Et autrement, il est également possible aux bénéficiaires d'une autorisation d'urbanisme de saisir le greffe du tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir du greffe une attestation selon laquelle il a reçu, ou il n'a pas reçu, espérons-le, un quelconque recours. Et dans ce cas-là, on peut souffler et on va pouvoir avancer sur la mise en œuvre de son permis de construire.
Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement claire et précise. Nous marquons une courte pause avant de terminer notre émission consacrée au droit public.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Vous êtes sur IDFM Radio, vous écoutez Tous les droits, nous terminons cette émission consacrée aujourd'hui au droit public. Maître Julien Lannes, avant la pause, nous parlions des règles d'urbanisme applicables sur le territoire français et l'importance pour les auditeurs de savoir quand ils se posent une question en droit de l'urbanisme, de où se situe leur bien et dans quelle zone se situe leur bien. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment on vérifie la localisation et les règles applicables à notre terrain ?
C'est effectivement fondamental, Sonia. Il va falloir consulter le plan de zonage de votre plan local d'urbanisme. La manière la plus simple de le consulter, c'est de se rendre soit sur le site internet de sa commune, soit éventuellement en mairie pour consulter en version papier, où désormais vous avez un outil avec vraiment un outil de cartographie qui est très efficace, qui s'appelle geoportail-urbanisme.gouv.fr. Vous rentrez votre adresse et ça va vous permettre de prendre connaissance des règles d'urbanisme qui sont applicables. Un mot aussi pour dire que l'auditeur peut solliciter un certificat d'urbanisme qui lui permettra de déterminer avec certitude les règles d'urbanisme applicables.
On aura l'occasion peut-être de refaire une nouvelle émission consacrée spécifiquement au droit de l'urbanisme pour aborder cette question du certificat d'urbanisme.
Très volontiers.
Voilà, donc on peut consulter sur à la mairie aussi le plan local d'urbanisme avec un plan de zonage et comme ça on sait où on se situe.
Exactement. Ça demande un petit peu d'habileté, de réussir à se localiser sur un grand plan, mais en prenant les grands axes, les cours d'eau, les grands équipements publics, on arrive à s'identifier. Mais ensuite, sur Géoportail, vraiment, on rentre sur son adresse, comme sur les outils de cartographie grand public. Et là, ça vous flèche de manière précise.
Ah, tout de suite. Bon, Géoportail. Très bien. Merci, Maître Julien Lalanne, pour cette dernière précision d'importance. Maître Jonathan Thomas, une dernière question pour vous en contentieux des étrangers, votre matière de prédilection. Je suis mère d'un enfant français. Est-ce que ce lien me donne automatiquement droit à un titre de séjour vie privée et familiale? Quelles sont les conditions à remplir?
Alors, en réalité, cette auditrice occupe le statut de parent d'enfant français et c'est une admission au séjour de plein droit. Toutefois, il y a des conditions à remplir. D'abord, il est important que le lien de filiation soit établi entre le parent français et l'enfant. Donc, il faut que l'enfant soit reconnu par le père français ou la mère française. Et ça, c'est absolument indispensable parce que s'il n'y a pas de lien de filiation, par définition, on ne peut pas reconnaître le statut de parent d'enfant français. Ensuite, il y a des conditions de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ça veut dire effectivement que ce parent qui demande un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français doit justifier, contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit depuis sa naissance, soit depuis au moins 2 ans. Donc ça, c'est extrêmement important. À partir de là, elle pourra déposer cette demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, obtenir ce qu'on appelle une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'un an, et ensuite, lors du renouvellement, toujours effectivement sous couvert de rapporter la preuve de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de la part du demandeur de titre, mais également de la part du parent français, elle pourra, cette personne, obtenir une carte de séjour pluriannuel. C'est très important parce que moi, dans mon activité professionnelle, je rencontre souvent beaucoup de contentieux sur des demandeurs de titres de séjour en qualité de parents d'enfants français qui ne justifient pas suffisamment des preuves de contribution à l'entretien et à l'éducation, souvent du parent français, parce que ce sont souvent des couples séparés, divorcés. Ou parfois, le père ne vit pas avec la mère, et donc évidemment il y a un contentieux administratif que nous portons devant le tribunal administratif pour contester des éventuelles décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ou de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Et j'ajoute également, et c'est une condition à remplir, que l'enfant doit vivre sur le territoire français naturellement avec le demandeur de titre.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une dernière question pour vous, Maître Raphaël Cabral, cette fois en fonction publique. Je suis fonctionnaire territorial titulaire depuis décembre 2023, j'envisage de demander ma mobilité. Quelles sont les règles principales en matière de droit à la mobilité dans la fonction publique? Et si j'ai un refus, qu'est-ce que je peux faire?
Alors, si je comprends bien la question, c'est l'auditeur souhaite donc une mutation au sein d'une collectivité. Alors pour nos auditeurs, il s'agit de quoi? Il s'agit vous êtes affecté dans la mairie par exemple de Montmorency et vous voulez exercer au sein d'une autre collectivité territoriale, par exemple celle d'Anguin. Alors c'est un droit qui est ouvert aux seuls fonctionnaires titulaires, pas pour les stagiaires. Deuxième chose, la jurisprudence est très claire, il y a 3 conditions à remplir pour pouvoir obtenir une mutation externe. Il faut en premier lieu, un accord entre le fonctionnaire et la collectivité d'accueil. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une absence d'opposition de la part de la collectivité d'origine. Alors, cette opposition, ça serait par exemple liée à des nécessités de service. On va avoir du mal à le remplacer, on est en sous-effectif, des considérations de ce type. Troisième condition, c'est un motif de délai. Il y a au moins 3 mois entre le moment où il y a l'accord de la collectivité d'accueil et l'entrée en fonction de l'agent. Sachant que quand vous êtes fonctionnaire, il faut donc adresser un courrier recommandé à votre collectivité d'origine pour dire je vais être muté ou je souhaite une mutation et la collectivité d'accueil est d'accord. Et donc là, il y a un délai de 2 mois. Donc une mutation, au minimum, c'est 5 mois. Au minimum. Et alors là, peut-être la petite particularité, c'est que fonctionnaire qui vous a adressé la question, il est fonctionnaire depuis décembre 2023. Donc attention, parce que comme il n'a pas 3 ans, il y a des questions notamment de reversement par rapport à la rémunération ou aux formations qu'il a pu suivre dans sa collectivité qui peut bloquer le processus. Au final, ça va prendre la forme de, si la mutation est aboutie, à un arrêté de mutation de la collectivité qui accueille et un arrêté de radiation pour la collectivité qui voit partir son agent.
Très bien. Et donc, un agent contractuel, par exemple, parce que vous parliez, là, il faut qu'il soit titularisé.
Ouais,
l'agent contractuel, vraiment, ça ne marche
c'est
pas.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que les seuls titulaires bénéficient de cette garantie. Cette garantie, c'est donc l'évolution, la mutation au sein d'une collectivité à une autre ou au sein d'une fonction publique à une autre.
Et d'accord. Et un agent contractuel peut être espéré titularisé tout le temps ou pas ?
Non, c'est très compliqué. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez l'étiquette contractuelle, il n'y a pas de possibilité d'être titulaire, sauf à passer un concours interne ou des exceptions qui sont vraiment très anecdotiques, les emplois réservés, ça peut être aussi la création d'un cadre d'emploi pour lequel le concours est écarté par la collectivité, ou pour des CDD, des conditions d'handicap, ou le fait que l'agence bénéficie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique. Mais, en principe, pour être titulaire, il faut passer le concours interne.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation pour intervenir sur ce domaine du droit public qui est une matière qui n'est pas pratiquée par la majorité des avocats. Et donc, je vous remercie d'avoir apporté cette expertise aujourd'hui. Maître Julien Lanne, vous reviendrez nous voir ?
Avec grand plaisir, Sonia.
Merci à vous. Maître Jonathan Thomas, même question ?
Évidemment, avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu.
En plus, vous n'êtes pas loin. Vous ne pouvez pas dire que le trajet sera un obstacle.
Je suis chez vous. Je reviendrai.
Maître Raphaël Cabral également.
Avec plaisir. Si vous voulez parler du contentieux prud'homal.
Ah, voilà. Avec votre autre casquette. Merci. Merci à vous trois. Je vous rappelle que cette émission peut être écoutée en podcast sur le site IDFM Radio. Une émission Tous les droits conçus par vous et pour vous. Je recevrai une fois par mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio 98 FM. Belle journée à vous et excellente semaine.